La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. À l'occasion de cette deuxième émission de la rentrée, Robert Comeau s'entretient en première partie avec l'historien Denis Vaugeois à la suite d'un article paru dans le quotidien Le Devoir le 2 septembre dernier. L'article, sous la plume de Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, avance que le gouvernement fédéral aurait tout fait pour bloquer la venue au Canada de l'original du traité de Paris qui scellait la cession du Canada à l'Angleterre en 1763. Et en seconde partie de l'émission, nous vous proposons d'autres extraits des mémoires de Marcel Masse, cet historien, homme politique et ancien ministre, décédé le 25 août dernier. En levée de rideau, Robert Comeau s'entretient avec l'historien Denis Vaugeois, qui vient commenter cette controverse entourant la venue à Québec de l'original du traité de Paris, qui sera finalement exposé du 22 septembre au 2 octobre prochain au Musée de la civilisation de Québec. Document fondateur de l'histoire du Canada, le traité de Paris est celui qui a mis fin en 1763 à la guerre de 7 ans. Et sceller la cession du Canada à l'Angleterre après la défaite des plaines d'Abraham.
Bonjour Denis Vaugeois.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler aujourd'hui du traité de Paris de 1763. On devait le commémorer l'année passée, en 2013, mais on va essayer d'expliquer pourquoi on n'en a pas trop parlé. Alors, au fond, pourquoi parler de ça aujourd'hui? D'abord, le Devoir du 2 septembre 2014 titrait en manchette « La conquête, un tabou à Ottawa » et c'est Christian Rioux qui expliquait comment on avait bloqué la venue au Canada du traité de Paris. Alors, pouvez-vous nous reprendre ça, nous expliquer ça, parce que c'était un long article, ouais. Et on ne sait pas trop si c'est Quai d'Orsay ou Ottawa qui a bloqué et qui a fait en sorte que en 2013, on n'a pas parlé du traité de Paris.
L'article de Rio est quand même assez clair. Hein?
Mais il est long.
Mais en fait, je n'en parlais pas. C'est un sujet que je gardais secret. J'ai fait allusion, alors que j'ai participé à une table ronde où vous étiez d'ailleurs à la Société Saint-Jean-Baptiste, sur Maurice Séguin. Maurice Séguin qui était un des personnage qui a beaucoup insisté, il appelait ça 1760. 1760, pour lui, ça évoquait la conquête. La conquête, c'est le traité de Paris, finalement, parce que le traité de Paris, c'est ce qui met fin à la colonisation française, et ça marque le début de la colonisation britannique. Donc, ma conférence portant autour de Séguin et 1760, là, j'ai regardé la salle, puis j'ai dit, bon,
une petite anecdote en passant.
Ben, peut-être. J'ai dit, il n'y a pas de journaliste dans la salle ici. D'abord, les journalistes, ils ne viennent plus à ce genre de rencontre. Donc, j'ai déjà offert une confidence. Alors, j'ai dit, normalement, un pays aurait dû souligner les 250 ans d'un document qui marque son histoire de façon aussi radicale que ça. La fin d'une colonisation française, c'est quand même pas rien. Puis le début d'une colonisation britannique, et ce qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat du traité de Paris. Il n'y a pas de document plus important dans notre histoire que le traité de Paris. Alors, c'est sûr que les gens avaient vu venir, après la fondation de Québec, après la bataille des plaines d'Abraham, après la capitulation de Montréal, bien, on était rendu au traité de Paris. Normalement, donc, on aurait dû, pas commémorer ou célébrer, la question n'est pas là.
Mais rappeler.
En parler un peu, essayer de comprendre. Puis il y a des gens qui débarquent ici, des immigrants, puis ils disent, bien, ça parle français, mais on est en Amérique, etc. Faut expliquer d'où on vient, d'où on sort, puis pour nous autres même. Donc, que c'est un document dont il faut parler, puis le décortiquer, puis l'analyser. Puis d'abord, à chaque fois qu'on fait une conférence, les gens nous disent toujours « Ah, la France nous a abandonnés ». Ça, c'est une idée ancrée chez les Québécois. Alors, est-ce que c'est un abandon, le traité de Paris? Est-ce que c'est une cession? Et ainsi de suite. Alors, normalement, un gouvernement comme celui d'Ottawa aurait dû, quitte à manipuler, quitte à orchestrer, quitte à contrôler. Mais là, c'est pas ça. Ils voulaient pas qu'on en parle.
Donc, il y a eu donc un combat diplomatique pendant 2 ans pour empêcher même que le document vienne ici. C'est ce que j'ai compris. C'est ça?
Tu traité de Paris, je dis yes.
Et pourtant, il était en français, le traité de Paris.
Ah oui, ça, c'est une bonne remarque.
Il a été rédigé en français.
C'était déjà très intéressant, ça. Le document par lequel on devient une colonie britannique est rédigé avec une version française. Donc, dès 2011, là, on a commencé à s'agiter un petit peu. On avait un programme éditorial. D'ailleurs, ça a donné à Paris, chez Colin, 2 livres très importants dirigés par Funk et Vessière, auxquels beaucoup de Québécois ont participé. Et puis nous, on avait dans le système aussi des projets d'édition. Vous avez évoqué tout à l'heure Vive la conquête, mais on a fait aussi un 1763 qui réunit des travaux savants qui sont très intéressants. Donc, on se préparait. Mais à chaque fois là, qu'on disait « ça serait intéressant de faire venir le document lui-même », il ne se passait rien. Jusqu'au jour, on est en 2012, puis ça, c'est assez curieux comme situation. Je reçois un message de Jocelyn Destourneaux, qui, lui, il passe pour pas être très, très chaud pour la conquête. Encore que ça, c'est des exagérations.
Il regarde surtout l'avenir, il regarde pas le passé.
Il regarde plutôt l'avenir. Mais quand même, Jocelyn, c'est un bon historien. Et puis, la conquête, il sait bien que ça fait partie de notre parcours historique. Il n'est pas négationniste. Et donc, un Américain, parce que Jocelyn est connu, il se promène partout. Donc, il y a un historien américain qui essayait d'organiser quelque chose aux États-Unis autour du traité de Paris. On est en 2012. Et puis, ça marche pas avec Ottawa. Il a envoyé des messages au musée de l'association, aux affaires étrangères, aux affaires autochtones, etc., parce qu'il veut mettre le traité de Paris avec la proclamation royale, qui est un document important pour les autochtones. Alors, mais là, il y a en mars un contact avec Ottawa, avec différents ministères, avec le musée des civilisations, comme ça se disait à l'époque. Et puis tout d'un coup, silence. Il reçoit des messages en disant « écrivez-nous plus, les dates ne coïncident pas, il y a des problèmes d'agenda, n'importe quoi ». Et là, lui, il a le réflexe d'envoyer ça à Jocelyn Destourneaux. Et Jocelyn dit, écoute, moi, je ne m'occupe pas de ça actuellement, j'en ai plein les bras avec d'autres choses, venons voir vos joies. Okay. C'est comme ça que Donald Carleton est entré en contact avec moi. Alors, moi, c'était du bonbon. J'avais mon moment de vérité. Et là, je voyais dans les documents qu'à l'ambassade de France à Ottawa, avait de toute évidence compris que les autorités fédérales n'étaient pas tellement intéressés à ce qu'il se passe quelque chose. Et là, plus clairement que ça, les autorités fédérales mettaient le paquet pour qu'en 2013, il soit question de la guerre de 1812-1813. Parce que la guerre de 1812-1813 avait réuni autochtones, britanniques et canadiens français contre les Américains. Ça, c'était un cadeau du ciel de pouvoir commémorer un moment d'une guerre qui nous réunit contre les Américains.
Et surtout qu'il y a des Canadiens français qui sont pour l'Angleterre contre Napoléon. Hein? Ah, c'est ben... tout ça qui les intéressait. Parce que ça leur faisait plaisir de montrer que les Canadiens français, pour une fois, appuyaient l'Angleterre contre...
Moi, je ne nierais pas qu'il y a de l'intérêt... plus qu'on a voulu la
mettre. Puis on a essayé de montrer qu'il y avait de l'unité canadienne, alors que c'était loin d'être le cas quand on regarde...
Mais quand même, moi, comme historien, il y a toujours un peu de vrai partout. Donc, je nie pas qu'il peut avoir un intérêt à se rappeler la guerre de 1812-1813. On peut admettre ça.
Mais c'est un fait moins important que 1763.
Absolument, absolument. Ouais. Mais alors, donc, il y a eu de l'argent, il y a eu des tentatives de mobilisation, de réjouissance de population autour de 1812-1813, et pas avec beaucoup de succès, ça n'a pas levé bien. Mais il reste qu'à côté de ça, on avait réussi à garder le couvercle sur le traité de Paris. Et là, il se passait rien. Et là, je faisais mes recherches personnelles sur le traité de Paris, donc j'ai été à quelques reprises aux affaires étrangères, j'ai été au Quai d'Orsay, j'ai été aux archives de la Courneuve, et là, j'entendais des bribes. Et là j'entendais une réunion, par exemple, de diplomates français à Paris. Là, le consul de France à Québec avait émis telle opinion, puis l'ambassadeur avait émis telle opinion. Là, j'ai bien vu qu'il y avait une petite rivalité entre le consul et l'ambassadeur, mais ça, c'est pas nouveau. C'est un peu inscrit dans l'ordre des choses actuellement, ça, parce que le consulat a un statut qui est exceptionnel, le consulat français à Québec. Et ça a toujours un peu gêné l'ambassadeur à Ottawa. Alors, sur cette question-là, il est probable que le consul à Québec était plutôt favorable à ce qu'il se passe quelque chose. Puis le PQ étant au pouvoir, ben il peut peut-être avoir un peu l'idée d'en profiter pour exciter un peu le monde avec ça. D'ailleurs, c'était la crainte d'Ottawa. Hein? Et je sais qu'il était question qu'à un moment donné, que le traité vienne en même temps que M. Hollande se rende visite officielle. Parce que je sais aussi que Laurent Fabius, qui est celui finalement qui va débloquer toute l'affaire, ministre des Affaires étrangères de France, donc Laurent Fabius, lui, avait prévu venir Il y avait même un petit conflit entre le président puis son ministre, parce que Fabius se voyait aussi ici au Québec à cette occasion-là. Donc, les Français ne le cachaient pas, le document. Ils n'en avaient pas honte, là. Mais le reste était tellement embrouillé, puis c'est clair qu'il y avait, à Ottawa, dans le gouvernement de M. Harper, il y avait une volonté de passer tout droit.
Donc, finalement, le document va se retrouver à Québec, au Musée de la civilisation, au mois de septembre 2014. Est-ce que c'est certain?
On a vérifié quand même. Quand Mme Saint-Pierre est allée à Paris il y a quelques mois, elle a rencontré M. Fabius. Tu sais, tout ça, c'est, hein? Alors, elle a rencontré M. Fabius, et Fabius, lui, était un partisan de la venue du traité. Donc, il a parlé avec Mme Saint-Pierre, et Mme Saint-Pierre a dit oui. Et ça, je suis content de le mentionner, parce que ça me rassure de voir que ce sont les libéraux qui ont dit OK, parce que le PQ ne s'est pas rendu jusque-là. Jean-François Lisée a fait un certain nombre de voyages à Paris, c'est connu maintenant. Et il y avait des documents prêts à signer, il y avait des échanges de lettres avec M. Fabius qui étaient prêts, et sapristi, ça n'a jamais été signé. Et c'est Mme Saint-Pierre qui va dire à M. Fabius...
Ça ne sera peut-être plus ministre, ça va peut-être juste secrétaire.
Ah, bien ça, c'est une autre question.
Une question assez importante quand même.
Oui, mais c'est... écoutez, j'ai une opinion là-dessus, là, c'est pas la place pour les mettre, mais j'aimerais ça la rendre publique, parce que je pense qu'il faut garder ce ministère, mais je crois quand même qu'il y aurait moyen de faire des économies, parce qu'il y a une disproportion actuellement de fonctionnaires à Québec dans ce ministère par rapport aux effectifs qu'on a à l'étranger.
Alors, écoutez, on va mettre un terme à cet entretien. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé du traité de Paris dans l'actualité. On voit qu'on pense qu'on va continuer à en parler dans les prochains mois, parce que je pense que vous êtes intéressé toujours à poursuivre la recherche là-dessus.
Oui, oui. Ah ben, c'est ça.
Alors, on va revenir sur ça de
mais
façon...
ça sur quoi on vient d'échanger, peut-être qu'il y a des gens qui seront un peu étonnés, mais il faut dire que j'ai été mêlé à la coopération franco-québécoise pendant plusieurs années. J'ai été directeur général, d'ailleurs, des relations internationales. J'ai fait beaucoup de missions en France. Je me suis occupé de beaucoup de programmes de coopération. Et c'est clair qu'en France, il y a diverses opinions. Par exemple, De Gaulle, évidemment, avait contre lui le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a toujours été plus traditionnel, plus classique, plus rangé,
plus prudent,
si on peut utiliser ce mot. Donc, cette fois-ci, c'est pas étonnant que le Quai d'Orsay ait une position qui est plus respectueuse des positions du gouvernement canadien, fédéral canadien. Comprends-tu? S'il y a à juger entre le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement québécois, son premier choix va vers le gouvernement fédéral canadien. C'est dans leur démarche. Et cette fois-ci, il y a rien d'étonnant dans ce que j'ai raconté, sauf que ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement canadien a tout fait pour qu'on ne parle pas du traité de Paris, et qu'il n'y a pas d'événements, et qu'on n'encourage pas quelque événement que ce soit, et même qu'on demande au Musée des civilisations à Ottawa de rien faire à cette occasion. Et quand les Américains disent au Musée des civilisations, voulez-vous qu'on fasse ensemble quelque chose, le musée hésite, et finalement le musée dit non.
En fait, on ne contrôle pas tout l'agenda des commémorations.
Et, ça, non.
Et si vous me permettez que j'introduise un petit élément, en 2015, ça fera 175 ans qu'on subit l'Union, et l'Union qui a été faite en 1840, et je ne pense pas que le gouvernement fédéral...
On ne peut jamais s'opposer, quoi.
Alors, merci beaucoup. À une prochaine.
Vous venez d'entendre l'entrevue que nous accordait l'historien Denis Vaugeois, qui est venu commenter cette controverse entourant la venue à Québec de l'original du traité de Paris qui sera finalement exposé du 22 septembre au 2 octobre prochain au Musée de la civilisation de Québec. Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire sur les ondes Radio-VM, au microphone, Éric Lebel. En cette deuxième partie de l'émission, nous vous présentons d'autres extraits des mémoires de Marcel Masse, cette figure de proue de l'histoire politique du Québec qui est décédée le 25 août dernier à l'âge de 78 ans. Il fut aussi un membre actif de la Société historique de Montréal. Cette entrevue est une rediffusion de l'émission présentée dans le cadre de « Nouveaux regards sur notre histoire » au printemps 2013, il y a un peu plus d'un an ici même, à l'antenne de Radio-VM.
Aujourd'hui, Marcel Masse nous raconte dans ce deuxième entretien son entrée dans la vie politique québécoise sous Daniel Johnson, père, et sa carrière politique comme député et ministre de l'Union nationale. Élu en 66 et réélu en 70, M. Masse a été nommé à 30 ans ministre d'État à l'Éducation. Bonjour Marcel.
Bonjour.
D'abord, si on se replace dans le contexte de l'époque, après votre retour d'études en Europe, vous étiez toujours professeur d'histoire à la Commission scolaire régionale de Joliette, de 62 à 66. Vous êtes impliqué à ce moment-là aussi dans le syndicalisme des enseignants. Et comment vous vous êtes situé à l'élection générale de 62, élection là, qui portait sur l'étatisation de l'électricité, et c'est à ce moment-là, évidemment, René Lévesque était au sommet du palmarès.
Oui, en 1962, donc je reviens d'Europe à la fin du mois d'août, et déjà dans l'atmosphère, on parle d'une possibilité d'élection à court terme, au mois de septembre. Il y a la réunion qu'on a appelée « Lac à l'épaule » où le gouvernement, les membres du gouvernement Lesage discutent entre eux des prises de position concernant le projet de René Lévesque de nationalisation de l'hydroélectricité. Personnellement, j'étais favorable à l'étatisation de l'électricité et dans le mouvement avec les sociétés Saint-Jean-Baptiste et tous ceux qui s'intéressaient à ces aspects-là, j'ai favorisé, j'ai préconisé, je l'ai dit publiquement, l'intention de voter et de faire la promotion, non pas du Parti libéral, mais la promotion de ce projet d'étatisation. Donc, en 62, Joliette, indépendamment de ça, ça n'a pas changé le vote des électeurs, c'est l'Union nationale qui a été élue le soir de l'élection et c'est Maurice Majot qui est député de la circonscription de Joliette. Donc, j'étais pour l'étatisation, mais Joliette a voté Union nationale.
Un an plus tard, vous avez rencontré Daniel Johnson. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances cette première rencontre a eu lieu?
J'ai été invité à une réunion, une fin d'après-midi, où Daniel Johnson venait dans la circonscription. Il faisait une tournée à travers le Québec pour, disons, faire la promotion de son parti et rencontrer ses organisateurs. Alors, il venait passer la fin de semaine à Joliette, et puis un vendredi, en fin d'après-midi, la ville de Joliette, comme chef d'opposition, lui a offert une réception civique. Alors, j'ai été invité dans le cadre de cette réception-là, à un titre ou à un autre, et puis je me suis retrouvé en fin d'après-midi, présenté par M. Majot à Daniel Johnson. Et M. Majot avait préparé un petit peu la scène et puis a expliqué le rôle que je jouais dans la région. Là, il m'a demandé de se joindre à eux après la réception parce qu'il y avait un petit dîner chez lui. Alors, j'ai accepté et après cette rencontre, je me suis retrouvé chez M. Maurice Majot où avaient été invités quelques 5-6 des principaux organisateurs de Joliette. Alors, avec eu l'occasion pendant cette heure et demie, de discuter avec Daniel Johnson, surtout du renouveau de l'Union nationale, dans le sens que je lui ai expliqué que personnellement, je n'avais pas voté pour l'Union nationale, l'étatisation d'électricité, et ça l'a amené à m'expliquer un peu pourquoi il n'avait pas eu le rôle actif. Parce qu'il faut se souvenir qu'au début, Daniel Johnson n'était pas contre l'idée de nationalisation de l'électricité. Mais sa préoccupation était l'arrivée possible du Crédit social de Caouette dans le champ provincial. Caouette, depuis plusieurs années, avait travaillé cette question-là. Et ça l'a inquiété Daniel Johnson. Alors, on a parlé de choses et d'autres, et puis ça s'est terminé en disant « faudrait qu'on garde le contact ». Et c'est ce qui s'est pas dit.
Alors, fin 62, les choses bougent beaucoup à Ottawa. Vous avez André Laurendeau au Devoir qui préconise une commission d'enquête, une grande commission d'enquête sur les questions constitutionnelles. Vous avez parlé des créditistes. Effectivement, Gilles Grégoire relance le projet d'André Laurendeau. Pearson appuie la proposition. Et trois mois après avoir été porté au pouvoir en avril 63, Pearson donne son accord à cette grande commission-là. C'est ce qui amène les partis politiques à l'Assemblée législative à créer un comité sur les questions constitutionnelles. Vous avez été appelé à jouer un rôle à ce moment-là, puis vous nous l'expliquez.
Il faut se replacer. L'Union nationale, en 1962, avait à son programme la proposition d'organiser au Québec des États généraux du Canada français. on oublie cet aspect du programme parce qu'on est tous centrés là, sur cette question d'étatisation. C'était déjà dans le programme de l'Union nationale.
Dès 62.
Et les sociétés Saint-Jean-Baptiste, dès ce moment-là, se sont plus ou moins emparés de cet aspect du programme de l'Union nationale et ont passé à l'organisation des États généraux qui vont jouer un rôle très important parce qu'à la fin de cette décennie, 68-69, les États généraux ont joué un rôle très important par rapport à la réorientation du projet. On est passé de Canadien français à Québec. Il y a eu beaucoup de changements, mais ça vient de là. Dans son programme, Daniel Johnson également a avancé l'idée d'une réforme constitutionnelle importante. Alors, tout le monde bouge sur le plan constitutionnel. Le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral veut trouver une formule d'amendement parce qu'il veut rapatrier la Constitution. Le Québec se sert de ce levier-là pour faire avancer ses idées. Le Parti libéral, d'abord, approuve la formule Fulton-Favreau. Daniel Johnson est contre et la plupart des gens qu'on appellerait les nationalistes sont contre cette formule-là parce qu'ils sont convaincus que ça imposerait un carcan, ça prendrait l'unanimité de toutes les autres provinces pour faire avancer le projet québécois de la relation Québec-Canada. Et les sociétés Saint-Jean-Baptiste ont joué un rôle important là-dedans et une des voix fortes de cet événement-là, c'était Jacques-Yvan Morin, qu'on a invité à Joliette et puis qui a fait le tour du Québec pour dénoncer cet aspect-là. Alors là, il y a un bouillonnement dans les partis politiques sur la question constitutionnelle qui, à ce moment-là, prend plus d'importance que, disons, la question culturelle ou la question sociale ou la question économique. Ça se joue autour de ça, avec chacun essayant de marquer son territoire, de proposer son approche et puis d'aller chercher les gens qui favorisent cet aspect-là. Il y a un bouillonnement important dans ces années-là.
Donc, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en février 64, Laurent Daud écrit dans son journal, le journal qu'il a fait pendant la commission, qui est arrivé au Québec, qui a rencontré Le Sage, La Porte, Gérin Lajoie, et il informe que la province ne fera pas de mémoire, ne soumettra pas de mémoire à la commission Laurent Daud-Danton, à moins que l'Ontario le fasse. Alors vous, en avril, j'ai retrouvé qu'en avril 64, Daniel Johnson vous demande de travailler un mémoire qui se propose justement de présenter à la commission Laurent Daud-Danton. Vous souvenez-vous un peu d'avoir travaillé là-dessus? Quelles étaient les positions un peu que défendaient? C'est ce que vous racontez. Là. Les positions constitutionnelles sont très importantes. Et c'était le principe d'égalité ou l'indépendance. Est-ce que déjà, ça se dessinait dans ce mémoire de 64?
Oui, il y a eu une évolution tout le long de la pensée de Daniel Johnson. C'est normal, la situation évolue et le leader, je ne dis pas suit les troupes, mais quand même évalue son approche par rapport à la demande de la société. Alors, il y a une évolution dans ce domaine-là. Daniel Johnson se cherchait comme chef d'opposition des tribunes pour faire valoir son point de vue. Et il avait considéré que de présenter un mémoire à la commission Laurent Daud-Danton, c'est une partie importante, c'est une façon pour lui de faire valoir son point de vue. Donc, avec son équipe, ils se sont mis à rédiger un mémoire. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé à un certain nombre de personnes, je le suppose. En tout cas, il m'a téléphoné, puis me dire que voilà, on a un document, un brouillon plus ou moins final. J'aimerais ça que vous le regardiez, comme probablement il a fait la même chose avec d'autres. Alors, j'ai reçu ce texte-là, texte de plusieurs pages, 30, 40 pages, bien structuré, et j'ai analysé le texte comme tel, et puis j'ai fait des remarques à gauche puis à droite, mais à la fin de tout. Dans une note à côté, j'ai écrit à M. Johnson que je ne comprenais pas pourquoi il voulait, lui, chef de l'opposition du Québec, présenter son mémoire à une commission fédérale sur la question constitutionnelle. S'il veut faire valoir son point, pourquoi ne fait-il pas ce qu'on appelle une motion en chambre portant création soit d'un comité ou d'une résolution de l'Assemblée et là, de faire un grand discours pour faire valoir son point de vue? Ça l'a certainement sonné des cloches à quelque part parce qu'au fond, ce mémoire-là n'a jamais été déposé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à M. Bertrand, qui lui avait l'image d'un nationalisme au Québec, de présenter la motion en chambre et de faire le discours. et demandé la création d'un comité sur les questions constitutionnelles. Et ce comité-là a existé, et pendant ces deux années qui ont suivi, régulièrement s'est réuni. Le représentant, le coordonnateur pour le gouvernement était Claude Morin, et le coordonnateur pour l'Union nationale était M. Charles Pelletier, qui était un des conseillers de Daniel Johnson. Il y a eu des réunions, il y a eu même des réunions publiques, ils ont colligé des mémoires également, et ça a fait avancer le débat. Alors donc, Daniel Johnson se cherchait des tribunes, mais évoluait son passé. Alors, ce document-là, on le retrouve largement dans le livre « Égalité ou indépendance » ou dans d'autres discours qu'a donné à gauche ou à droite au Québec Daniel Johnson. Alors, il y a une évolution de sa pensée.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période où tout le monde espère, tous les partis politiques espèrent arriver à un changement constitutionnel à la veille du centenaire de la Confédération. Donc, on sent là, qu'il va y avoir bientôt un changement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'André Laurendeau, dans son journal, fait état d'une discussion avec Claude Morin. Claude Morin lui dit tous les partis politiques dans le comité constitutionnel du Parlement vont s'entendre probablement vers une solution qui va être soit statut particulier ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait comme un mouvement assez consensuel vers un changement et je pense que le travail qui a été fait a permis de faire avancer ça. Mais j'aimerais savoir, puisqu'on parlait à l'époque beaucoup du fameux mode de rapatriement de la Constitution à la veille du centenaire, quelles étaient les positions de Johnson contre la formule Fulton-Favreau? En fait, je pense qu'il disait que ça empêcherait le Québec d'aller chercher des nouveaux pouvoirs, mais plus précisément, il a mené une grosse bataille là-dessus. Ça a été son cheval de bataille à l'élection de 66. Alors, pouvez-vous les expliquer un petit peu, ces arguments à Johnson?
On peut dire les points suivants. Daniel Johnson était, comme tous les autres leaders, toute l'élite, tous les penseurs du Québec, convaincu que le Québec avait ce qu'on appelle un droit de veto. C'est-à-dire que pour changer de façon importante, d'abord, par l'incorporation d'une formule d'amendement et tous les autres aspects, il fallait obtenir l'accord des provinces. Donc, le Québec avait, dans ce sens-là, un droit de veto. Et le Québec considérait, tout ce monde-là, de pouvoir faire passer à travers ce droit de veto-là la réforme constitutionnelle canadienne vue par le Québec, puisque si on n'acceptait pas ça, on n'aurait pas accepté la formule d'amendement, il n'y aurait pas eu de rapatriement. Donc, le Québec était convaincu que c'est à travers ce droit de veto que le Québec va obliger le Canada anglais à tenir compte de sa proposition. Donc, il s'agit à partir de là pour le Québec de développer une politique commune, mais là, c'est là qu'est arrivé quelqu'un qui s'est échappé du décor. C'est lorsque M. Lesage a approuvé la formule d'amendement, il coupait le pied ou coupait la branche de tous les autres qui croyaient que tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas adopté cette formule d'amendement, on avait une possibilité de passer nos programmes.
Puis Lesage, à ce moment-là, a essayé de forcer ses ministres d'aller défendre ça, entre autres à l'Université de Montréal, où il avait envoyé René Lévesque, qui s'est fait ramasser par Jacques-Yvan Morin. C'est Jacques-Yvan Morin qui n'était pas d'accord avec cette formule-là. Est-ce que Jacques-Yvan Morin était proche de l'Union nationale, ou si vous l'avez un peu annexé dans cette cause-là, ou il s'est fait un lien entre les deux, ou...
À ce moment-là, on revient à l'idée que d'abord, un parti politique, c'est une coalition temporaire d'intérêts, de personnes, d'idées, de visions de la société. Et ça bouge continuellement, un parti politique. Alors, c'est sûr que Daniel Johnson avait des contacts avec tout le monde, y compris avec Jacques-Yvan Morin, qui, à un moment donné, comme professeur de droit constitutionnel, est devenu le héros de cette question-là, la star de toute l'opposition du Québec à la formule Fulton-Favreau. Alors, tout ce monde-là se rencontrait à travers leurs idées. Je ne dis pas qu'il y avait des rencontres physiques régulièrement, mais à travers leurs idées. Alors, donc, dans ce sens-là, le Parti libéral s'isolait jusqu'à un certain point de la mouvance nationaliste du Québec, et là, ça donnait de l'espace à Daniel Johnson, et c'est pour ça que lui a lutté férocement avec tous les autres contre la formule Fulton-Favreau, parce que ça libérait le décor québécois et ça permettait à l'Union nationale de prendre un certain leadership.
Donc, dans la foulée du débat constitutionnel, il y a aussi une agitation assez forte. 63, c'est le moment où le RN devient parti politique. Il y a le FLQ qui commence en février 63, je pense. Donc, il y a toute une ébullition nationaliste. Et est-ce qu'on peut parler, à partir de l'automne 64, d'une relance de l'Union nationale? Et je pense, de ce côté-là, Johnson comptait sur vous auprès de la jeunesse, qui était assez attirée peut-être par les idées indépendantistes. Est-ce que ça vous a tenté un peu à ce moment-là, le RN? Est-ce que c'était une option ou pas du tout? Ça n'a jamais été considéré pour vous? En 64, là, je parle.
Le RN est dans le décor à Joliette je dirais pas à la fin des années 60. À la fin des années 60, c'est surtout les mouvements, il y avait des mouvements indépendantistes à ben cette époque-là.
Le PQ arrive en 68.
Barbeau.
Ah, ça, c'est 58.
C'est ça. Donc, 58, je veux dire, ma première période avant de partir en Europe, déjà, on invitait des conférenciers, on avait des contacts avec ce genre-là.
L'Alliance Laurentienne et tout ça.
Oui, c'est ça. C'était sous le chapitre de éducation populaire. Je fais mes deux années d'études en Europe. Quand on revient, toute cette chose-là a continué. Et dès ce moment-là, le RIN était le mouvement dans les écoles, chez les jeunes enseignants, était un mouvement d'opinion sur la question de la réforme constitutionnelle. Alors, on a invité à Joliette, que j'étais président du comité d'orientation de la Saint-Jean-Baptiste, on a invité des représentants de cette école-là qui sont venus faire leur exposé. J'ai participé à ces choses-là. C'était des choses qu'on développait tout le monde ensemble. Et pour ma part, moi, j'ai poursuivi mon action à l'intérieur de l'Union nationale et à un moment donné, le RIN est devenu un parti politique. Alors, en devenant un parti politique par rapport à l'Union nationale, parti politique, il fallait choisir. Et j'étais, moi, déjà, avec Johnson, dans l'Union nationale. Le choix était quand même assez facile à faire, dans le sens que j'en ai pas fait. J'ai continué avec l'Union nationale.
Mais vous étiez la bonne personne pour rallier les jeunes. Vous étiez d'abord très jeune, très populaire dans le milieu nationaliste. Donc, d'une certaine façon, c'était peut-être de la part de M. Johnson d'attirer les jeunes dans le Parti Union nationale. Mais pour ça, il fallait rajeunir l'image de l'Union nationale.
Oui, c'est ça. Et vous avez raison. Il fallait développer un projet pour l'Union nationale, mais il fallait d'abord aussi remodeler l'instrument ou remodeler l'outil ou moderniser le parti comme tel. Et de ce côté-là, moi, comme je n'étais pas partisan de l'Union nationale, je ne suis pas venu à l'Union nationale parce que j'étais militant de l'Union nationale, parce qu'il y avait plus ou moins de militants, parce qu'il y avait plus ou moins de partis. Moi, j'ai vu ça de l'extérieur. Et comme déjà en 62, je n'avais pas voté pour l'Union nationale pour toutes sortes de raisons, il y avait donc une distance entre la réalité Union nationale et la façon dont moi je le voyais. Et c'est dans ce sens-là que j'ai eu à maintes reprises des conversations avec Daniel Johnson, et pour lui, c'était rafraîchissant, parce que c'était quelqu'un qui voyait l'Union nationale de l'extérieur et qui apportait des solutions à l'outil qu'il fallait développer. Cet outil était propriété des députés, elle était propriété des quelques organisateurs de l'Union nationale. Et Johnson, en voyant, disons, une vue un peu plus fraîche de l'extérieur, ça a attiré son attention.
À ce moment-là, vous avez travaillé avec Mario Beaulieu. Il était dans votre équipe, si on peut dire. Il travaillait avec vous. Pouvez-vous nous expliquer un peu son rôle? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il travaillait plus au niveau du parti ou...
Oui, Mario Beaulieu, lui, avait été candidat même en 62 contre René Lévesque, en passant dans le comté de d'Orion, ici, si je me souviens bien, à Montréal. Donc, il faisait partie des militants traditionnels de base de l'Union nationale. Alors... Moi, ce que j'ai expliqué à M. Johnson, c'est que la première chose qu'il faut faire, si on veut réellement changer l'image de l'Union nationale, il faut changer le nom. On va faire une opération, mais on va changer le nom. Au lieu d'appeler ça une convention comme tout le monde, demandant à y réfléchir, j'ai lancé l'idée, on va faire des assises. Alors, en changeant le nom sur la bouteille, on changeait l'image de la bouteille. Et là, tout le monde s'est mis à parler d'assises et ça a donné tout de suite l'idée un peu rafraîchissante d'une nouvelle formule. Deuxième chose que j'ai avancée, si on veut changer les idées et changer, disons, l'approche plus traditionnelle de l'Union nationale, il faut qu'à cette réunion-là, on développe de nouvelles idées avec de nouvelles personnes. Et pour la première fois, il s'est fait deux choses. On a invité des gens de l'extérieur, des gens dans les domaines du syndicat, comme Jean Marchand, disons, dans le domaine constitutionnel, comme Claude Ryan, Jacques-Yvan Morin, enfin, tout ce qui comptait dans...
Des syndicalistes aussi.
Des syndicalistes, tout ce qui comptait dans le décor, ont été surpris de recevoir une invitation et ont tous accepté de travailler dans des panels, dans des conférences aux militants de l'Union nationale. Et deuxième chose, on a ouvert les portes à la presse. Pour la première fois, tout le monde pouvait se promener, tous les médias pouvaient se promener, interroger les militants, participer. Alors, donc, on a enlevé tout ce côté confidentiel, secret, un peu caché des partis politiques. Veux dire. Alors, pour la première fois, c'était ouvert. Alors, tout ça a créé réellement une surprise générale au Québec et pour la première fois a attiré l'attention des médias et des milieux d'affaires et de tous ceux qui comptent que l'Union nationale pouvait peut-être être une alternative au Parti libéral. Alors, ils ont commencé à surveiller ça d'un peu plus sérieusement.
Donc, quand se sont tenues les assises de l'Union nationale à l'hôtel Reine-Élisabeth en mars 65, je pense que c'est là que Johnson a sorti son égalité ou indépendance. Et est-ce qu'on peut dire que cet effort de démocratisation pour essayer de donner une nouvelle image aussi aussi, avec un projet mieux défini. Ça a été, au fond, de redorer le blason du national en s'ouvrant non seulement au nationalisme, mais à d'autres groupes de la société. C'était une stratégie de démocratisation, on peut dire, du parti. Et on peut dire que ça a fonctionné, puisque au moment de la victoire de l'Union nationale en 66, il y a un analyste de la presse qui écrit que le congrès de l'Union nationale en 65 a été probablement le point tournant qui explique la victoire de l'Union nationale en 66. Donc, ça a été le grand tournant. On le reconnaît à l'élection de 66. C'est à partir de ce moment-là que l'Union nationale a eu une crédibilité beaucoup plus forte. Alors vous, quel rôle vous avez joué, justement, puisqu'on parle d'élection de 66, dans l'élaboration du programme électoral de l'élection de 66?
Alors, ce qui est arrivé, donc, il y a eu ces assises qui ont été un point tournant, là, qui, au fond, les gens se sont aperçus qu'il y avait peut-être là un parti intéressant qui se développait. On a fait des structures et Mario Beaulieu, M. Lafontaine, tous ceux qui sont du côté de l'organisation ont joué un rôle important sur le plan d'organiser les événements. Ma participation était plutôt d'organiser les contenus et eux, les événements. Alors, quand on est arrivé, on s'approchait, disons, à un an et demi des élections, la question s'est posée qu'à partir de là, il faut avoir un programme soutenu, un programme qui répond aux besoins de la société. Alors, j'ai été nommé par les organismes de l'Union nationale, à la recommandation de M. Johnson, de coordonner les commissions que j'avais proposées à mettre sur pied pour bien connaître le Québec, se donner des racines, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions possibles. On a formé une douzaine de commissions. Il y avait 10 à 15 personnes dans ces commissions-là. Ils sont allés dans le Québec, ils ont ramassé des mémoires, ils ont rencontré des corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, que ce soit les municipalités, que ce soit les milieux d'affaires. Et je coordonnais ça ici au Club Renaissance à Montréal, tout en suivant mes cours à l'Université de Montréal et en donnant mes cours à moi à la Commission scolaire régionale de Joliette. Et tranquillement, sur un an et demi, on a colligé le programme de l'Union nationale. Et je l'ai soumis aux, disons, aux organismes de l'Union nationale, les députés, les conseillers législatifs, et avoir toute une série de rencontres qui nous ont menés, lorsque l'élection a été déclenchée, à présenter ce programme à l'Hôtel Mont-Royal à l'époque, le dimanche après-midi, au début de l'élection. Il y avait là 1500 à 2000 militants de l'Union nationale représentant tous les comtés. Ça a duré toute la journée avec M. Johnson, M. Dauzois, M. Bertrand. Et ma responsabilité était de proposer ce programme-là qui a été approuvé par les militants et qui est devenu le cœur même de l'élection de l'Union nationale. Donc, on avait un outil de parti qui s'était rénové et on avait un programme qui, à notre avis, répondait bien aux problèmes du Québec.
Alors, le programme de 66, qu'est-ce qu'il contenait essentiellement de nouveau? Parce que c'était une véritable surprise. On avait entretenu un peu l'attention et là arrive ce programme dont Laurent Laplante, d'ailleurs, éditorialiste à l'Action, en dit beaucoup de bien. Il dit que c'est intelligible, vraisemblable, positif et qu'il manifeste sans complexe sa vitalité, etc. Alors, on est tout en louange sur ce programme-là. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce programme?
Alors, le premier point, c'était la place du français au Québec. C'est une des premières fois où on affirme, au point de vue politique, de donner une place du français, français langue nationale. Évidemment, il n'y avait pas de projet de loi, mais il y avait l'intention, pour la première fois, d'inscrire que le français fait partie de la Constitution québécoise, fait partie des institutions québécoises et que c'est la langue nationale. C'est pas les langues, c'est la langue nationale. À définir, je veux dire, dans un contexte plus tard, mais au fond, c'était le premier point. Le deuxième point, l'Union nationale, après avoir préconisé les États généraux en 62, en 66, préconise de compléter la constitution interne et, disons, d'organiser une assemblée constituante pour affirmer le droit du Québec à sa propre constitution. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la constitution? Comment on fait approuver cette constitution-là par référendum pour le peuple? Il y a beaucoup de points qui viendront dans les années suivantes.
Ben, le Québec solidaire reprend cette idée-là encore aujourd'hui.
Exactement. Et c'était dans, on oublie ça, c'était dans le programme de l'Union nationale de 66, attaché à celui de 62. Évidemment, qui revient continuellement depuis des années, abolir le Conseil législatif.
Ça va se faire en quelle année, ça?
Ça va se faire par M. Bertrand en fin 68-69. Mais l'idée derrière ça de Daniel Johnson, c'était bien marqué « abolir », mais pour lui, il cherchait comment remplacer le Conseil législatif par un conseil qui aurait réuni des régions, les grands, les syndicats, les milieux d'affaires, donc une chambre de 25-30 personnes, une chambre consultative pour le Parlement jusqu'à un certain point. Mais finalement, M. Johnson étant disparu, le Conseil a été carrément aboli. Après ça, c'était de rapatrier les pouvoirs. On en revient toujours aux mêmes choses qu'aujourd'hui, rapatrier les pouvoirs, mais en commençant par les impôts. Plutôt que de rapatrier les pouvoirs, Johnson voulait dire, si on rapatrie les impôts, si Ottawa remet aux provinces les impôts auxquels les provinces devraient avoir droit compte tenu de leurs responsabilités, le reste suivra. Alors que maintenant, on cherche plutôt à rapatrier les pouvoirs pour pouvoir avoir l'argent. À cette époque-là, ce n'était pas ce qu'on a. Après ça, bâtir une structure administrative forte au Québec qui représente bien les volontés. Par exemple, l'immigration. Pour la première fois, la question de l'immigration devient là un débat de société et nous croyons, nous, qu'il est temps que le Québec se donne un ministère de l'immigration pour pouvoir mieux connaître le phénomène d'immigration, intégrer les immigrants, développer des politiques d'accueil, etc. C'était une première à ce moment-là. Et puis, les choses qui se sont faites depuis, qui à ce moment-là étaient surprenantes, l'Université du Québec. Il faut se souvenir qu'à la commission Parent, qui avait amené le programme du Parti libéral en 1966, préconisait une autre université de langue française à Montréal. Une deuxième université de langue française à Montréal. C'est tout ce qu'il y avait dans le rapport Parent et c'est tout ce qu'il y avait dans le programme du Parti libéral. J'ai été celui qui a apporté ça à l'Union nationale, l'idée de l'Université du Québec. Au lieu d'ouvrir
l'idée d'un réseau en région.
D'un réseau, c'est ça. Il y a une Université du Québec qui a des campus selon les besoins à Montréal, à Québec, et puis finalement, il y en a eu à Rimouski, à Chicoutimi, dans l'Outaouais, etc. Mais cette idée de structure vient pas du rapport Parent, vient carrément de l'Union nationale. Également, derrière ça, avoir un institut de recherche en pédagogie. Et un point qui a fait beaucoup de discussions depuis ce temps-là, c'est est-ce que les subventions versées aux commissions scolaires doivent être attachées à la présence de l'enfant ou directement à l'outil qui est la commission scolaire? Déjà, à ce moment-là, cette idée-là était...
Vous étiez plus à l'enfant, à l'étudiant?
Le programme de l'Union nationale, exactement. C'était l'idée, c'est que si on veut forcer... disons, la compétence par la concurrence, il faut que les gens puissent décider où ils envoient leur enfant. Et que dans ce sens-là, c'est l'enfant qui apporte la subvention et pas la commission scolaire qui la reçoit, puis après ça, essaie de trouver des enfants. Alors, il y a deux philosophies autour de ça.
C'est
régulièrement, ça revient, mais en tout cas, nous, on avait pris cette chose-là. Alors, une charte des droits de l'homme, à ce moment-là, c'était le début. Alors, l'Union nationale était pour ça. L'autre chose que Daniel Johnson avait apporté lui-même après avoir fait des déplacements dans les pays nordiques, en Norvège, c'est la question d'un ombudsman, c'est-à-dire d'avoir une structure qui permet aux citoyens d'être défendu. Alors, aujourd'hui, ça a été dans les cas. Le ministère de la fonction publique qui prendra sa place et qui coordonnera les élections. L'École nationale d'administration publique qui a été faite. Une loterie nationale, aujourd'hui, c'est bien connu. Et puis, dans le domaine de la culture, de l'éducation, Radio-Québec. On a ramené la question de Radio-Québec. C'était dans le programme et ça a été fait. Et toutes sortes de structures pour la culture. Voilà.
Au fond, c'est un vaste programme et vous avez l'Union nationale de l'époque continuait la Révolution tranquille. Contrairement peut-être à l'opinion, on s'attendait à un recul, à une régression. On voit que ça poursuit le développement de l'État, puis en même temps, il y a des mesures très nationalistes et étatistes. Alors, c'est un menu assez important. On comprend que ça a compté à l'élection de 66. Si on parle des résultats de l'élection du 5 juin, les libéraux avaient quand même plus de voix, mais moins d'élus. L'Union nationale arrive avec 56 sièges, les libéraux avec 50. Je me souviens que Le Sage n'avait pas accepté tout de suite la défaite parce qu'en termes de voix, l'Union nationale avait seulement 40 % alors que les libéraux avaient 47 % des voix. Alors, je me souviens qu'il y avait eu un petit délai là, avant l'acceptation de la défaite chez les libéraux. Alors, vous attendiez à recevoir sans doute un ministère à ce moment-là ou qu'est-ce que vous aviez comme attente après cette élection-là ou au moment de l'élection?
Alors, au moment de l'élection...
Vous êtes retrouvé député de Montcalm, élu.
Oui, ça s'est fait par étapes. Dans le sens suivant, c'est que, peut-être deux ans avant les élections, le député de Joliette, parce que je demeurais à Joliette, Maurice Majot, député de l'Union nationale, n'était pas tellement heureux de se déplacer continuellement de Joliette à Québec. Et je veux dire, c'était pas un mode de vie qui l'intéressait. À partir du moment où il a vu que, voilà, je prenais un certain poids dans l'Union nationale, il a été le premier à me dire, écoute, Marcel, si jamais ça t'intéresse d'être candidat, il n'y a pas de problème, moi, je te laisse ma place parce que, au fond, ça va faire mon affaire. Alors, moi, je suis parti avec cette idée-là, bon, vaguement. Mais lorsque M. Johnson a commencé à parler de circonscription, je lui ai dit, bon, on verra en temps et lieu pour l'instant, là, il y a Joliette, bon. Alors, il dit, non, M. Majot, je vais le convaincre en dernier. Puis là, à partir de là, moi, je commençais à être moins intéressé à être député parce que, au fond, ce rôle de conseiller me plaisait énormément. Et je me disais, si l'Union nationale gagne, moi, ce que j'aimerais, c'est de continuer au bureau du premier ministre à m'occuper de l'avenir, des programmes, de voir comment les choses se font. Mais pas dans. J'étais pas partisan. Je suis pas arrivé comme militant dans cette affaire-là. Je suis arrivé par le côté de l'organisation des idées.
Mais Johnson a dû voir votre côté organisateur aussi.
D'une part, mais ce qu'il m'a répondu, oui, tout ça est bien intéressant, mais pour gagner, ça me prend des députés. Alors, il faut que les gens se fassent élire. Alors, donc, il a poussé. Donc, Joliette, il considérait qu'il allait s'en occuper. Alors, l'autre comté, c'était Berthier, de l'autre côté, du côté de Québec. Hein, Joliette, après ça, Berthier, et puis Louisville. Pourquoi? Parce que moi, j'étais natif de Saint-Jean-de-Matha et le hasard faisait que Saint-Jean-de-Matha était dans la circonscription de Berthier. Ça me donnait une idée. Alors, j'ai commencé à rencontrer quelques personnes et puis tout d'un coup, je pense un mois après, Johnson me téléphone et j'ai trouvé un candidat dans Berthier. C'est le fils d'un de mes principaux organisateurs qui était maire de Saint-Michel-des-Saints, qui était le docteur Gauthier, qui d'ailleurs s'est fait élire. Bon, alors, moi, ça faisait dans un sens mon affaire. Je me suis dit, voilà, j'ai fait mon effort, mais je ne suis pas obligé d'être député. Mais M. Johnson, lui, il voulait quand même que je me présente. Alors, il a suscité dans le comté de Montcalm, l'autre, donc côté de Montréal, par rapport à Joliette, chez certains des organisateurs, que de venir solliciter, de me solliciter pour être candidat. En tout cas, ces choses se sont faites. Et finalement, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le comté de Montcalm, à Saint-Jacques. Montcalm, c'est Saint-Jacques, Saint-Donat, Saint-Esprit, Radon, Sainte-Marie-Salomé, enfin, cette région. Donc, c'est une région acadienne, la partie du bas de la circonscription, et le nord, c'est plutôt le travail forestier. Mais ce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, c'était que j'étais marié avec Cécile Martin, et j'ai découvert là que cette famille Martin...
Famille
conservatrice et famille acadienne, qui venait de cette région de Saint-Jacques. Moi, je les ai connus à Joliette, mais ils venaient de là, et ils venaient tellement de là que même... L'arrière-grand-père de mon épouse Cécile avait été candidat en 1861, donc longtemps avant la Confédération, 5-6 ans avant la Confédération. Il a été élu. Et ce qui est intéressant quand vous regardez, un grand nombre de futurs premiers ministres du Québec ou d'Ottawa ont été élus à cette élection-là, comme par exemple le premier ministre John Ross qui vient de Sainte-Anne de la Pérade qui a été premier ministre, Hector-Louis Langevin qui a joué un rôle très important.
Ça, c'est tous des conservateurs.
Tous des conservateurs. Il y avait Georges-Étienne Cartier, mais il y avait aussi des libéraux. Antoine Dorion a été élu là, et c'est ce Dorion-là qui deviendra chef du parti libéral et qui était opposé à la Confédération. Darcy McGee, qui était le représentant des Irlandais, qui a été assassiné. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mon point, c'est que ça fait longtemps. Lui-même a eu deux de ses fils qui ont été élus députés conservateurs dans cette circonscription, qui sont le grand-oncle et le grand-père de mon épouse. Et même son père, M. Martin, avait été invité par Duplessis à se présenter aux élections en 1935-36, mais il a refusé. Et c'est comme ça que le député Maurice Tellier a été député du comté de Montcalm. Donc, il y avait quand même, du côté de mon épouse, des racines dans cette circonscription. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai été élu au congrès de nomination à Sainte-Julien, et puis j'ai fait l'élection et j'ai été élu.
Donc, député, vous devenez à 30 ans ministre d'État à l'Éducation. Ça, c'est juin 66 et ça va durer jusqu'en décembre 67.
Mais avant de devenir ministre, j'ai commencé par le refuser parce que le soir de l'élection...
Ah oui?
Je suis, après avoir fêté dans Saint-Jacques, je suis venu fêter avec l'Organisation Union nationale à Montréal. Et puis après ça, je suis retourné chez moi. 5-6 jours après, le téléphone sonne, c'est Daniel Johnson. Bon, ah, voilà, Marcel, j'ai consulté, je suis en train de former mon cabinet, j'ai consulté les principaux syndicats, les leaders de syndicats, et j'aimerais que tu deviennes ministre du Travail. Alors, silence de ma part. Il faut se souvenir qu'aux élections, les relations de travail avaient fait partie, comme l'éducation, du débat. Et je ne me voyais pas à cet âge-là, à 29 ans, disons, à la tête de cette chose-là. J'ai refusé, je lui ai expliqué, écoutez, M. Johnson, j'aimerais d'abord connaître c'est quoi un Parlement, être député au Parlement, voir la façon dont ça se développe, et puis on reparlera de ça un jour. Puis, il était surpris de se faire dire non. Il dit, bon, ben écoutez, j'ai pas le temps de discuter ça, mais viens demain au Mont-Gabriel, je suis en petit comité pour discuter de ça. Alors, je me suis rendu là le lendemain. Et là, il m'a expliqué, il dit, moi, j'ai un problème, parce que lui voulait se nommer procureur général, donc ministre de la Justice, en plus d'être premier ministre, et M. Bertrand, lui, voulait être ministre de la Justice. Alors, d'un autre côté, Johnson voulait que M. Bertrand soit le ministre de l'Éducation, alors une espèce de compromis qui s'est fait, qu'au fond, M. Bertrand va être ministre de l'Éducation et de la Justice, sachant fort bien qu'il va s'occuper d'abord, parce que c'est son intérêt, de la Justice. Et il fallait quand même quelqu'un pour s'occuper de l'éducation sous la houlette ou sous le manteau de M. Bertrand. Et c'est là qu'il m'a poussé, mais réellement poussé en disant, là, écoute, j'ai besoin de ça. Alors, finalement, j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai été ministre d'État.
Ministre d'État.
Oui, c'est ça.
Et quels étaient, au fond, les grands dossiers au ministère de l'Éducation durant cette courte période quand même? Mais il y a eu beaucoup de dossiers importants, je crois.
Alors, le premier dossier important, c'était de recréer une confiance avec les institutions de base, avec les commissions scolaires qui avaient été passablement brusquées par le gouvernement précédent, la réforme de Gérard Lajoie, avec le secteur privé, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le niveau collégial était dans le secteur privé, à l'exception de la commission scolaire de Montréal. Tout le reste, c'était carrément des séminaires, des collèges. Et la question des universités à construire également, puisque la deuxième université de langue française n'était toujours pas construite à Montréal. Donc, il y avait beaucoup de relations entre le ministère et le milieu, si je peux m'exprimer ainsi. Premier problème, la question du transport scolaire. Il y a eu, à ce moment-là, au mois de septembre, un accident de train qui a frappé un autobus scolaire à Dorion, donc dans la région de Vaudreuil, où était la région de Gérin-Lajoie. Et puis, il y a eu plusieurs morts des enfants et ça a créé un traumatisme ajouté à la campagne électorale qui dénonçait beaucoup le transport scolaire. C'est la première chose, ça a été de résoudre de cette question-là. Et je me souviens, M. Johnson disait, écoute, il y a un point là dont je ne veux plus jamais entendre parler, c'est le problème du transport scolaire. Il faut que ça soit résolu, cette question-là. Alors, donc, on a donné un effort et puis, finalement, les choses se sont bien passées. Mais après ça, il y a eu, dès l'automne, tout le problème de la négociation qui traînait avec les libéraux. Il faut se souvenir là, que les enseignants voulaient faire la grève pour avoir le droit de grève, qu'il n'y avait pas de convention collective, qu'on négociait avec chacune des commissions scolaires. Je le sais d'autant plus que je le faisais moi-même comme président de la Fédération des instituteurs à Joliette. Il fallait donner un nouveau cadre
juridique pour les négociations.
Et il y a eu, à ce moment-là, à la fin des années 66 et puis des années 67, il y a eu des problèmes sérieux avec des grèves un peu partout au Québec chez les enseignants. Et puis, après discussion, j'ai été de ceux qui ont favorisé l'idée d'un cadre national. Ça n'avait pas de sens de négocier convention collective par convention collective avec des commissions scolaires, si grosses ou si petites soient-elles. Il faut avoir un cadre général pour tout le Québec pour qu'il y ait des possibilités pour tout le monde et non pas des trous énormes entre l'une et l'autre des commissions scolaires. Alors, ça a été un changement important qui, c'est ce qu'on appelle le Bill 25, qui a traumatisé beaucoup du côté de l'organisation syndicale des enseignants. C'était un changement majeur et il fallait également s'assurer que le plus rapidement possible, les hommes et les femmes aient des traitements similaires. Donc, il y avait une réforme très importante qui s'est faite de ce côté-là et qui aboutira. Dans quelques années plus tard, on se retrouvera, lorsque je serai au ministère de la fonction publique, d'une négociation très compliquée avec M. Laliberté, qui était président du syndicat. Donc, l'organisation de la convention collective. Troisième chose, ça a été l'Université du Québec. C'est bien beau de l'avoir dans le programme, mais il a fallu réfléchir à ça, la lancer. Ça a été fait dans les années qui ont suivi l'Université du Québec, l'UQAM, ici à Montréal.
En 68, première... la loi est passée.
Oui, c'est ça. Puis le temps, bon, c'est toujours un peu plus long qu'on veut, mais ça prend toujours 2-3 années. Et à l'intérieur de ça, très important, l'École nationale d'administration publique. Il fallait s'assurer qu'il y ait une formation continue au plus haut niveau pour avoir une structure et des fonctionnaires de grande qualité, de haut niveau. Alors, on a lancé cette École nationale d'administration publique qui, il faut s'en souvenir, quand j'étais à la Saint-Jean-Baptiste de Joliette en 62 ou 63, ça faisait partie des résolutions de la société. Donc, le même programme que j'ai poussé à gauche par à droite, on finit par le réaliser. Et ça, ça en est un exemple.
Il y a aussi toute la mise en place des cégeps, des collèges d'enseignement général, là,
Exactement.
Et la fin des collèges classiques en 67, c'est le début des premiers cégeps.
C'est ça, exactement. Et là, il fallait d'une part trouver une façon pour acheter, je mets ça entre guillemets, les institutions en présence là. Et un point où j'ai manqué mon coup, j'étais membre à l'époque de Gérard Lajoie. Avant les élections, je représentais le syndicat des enseignants à une commission des instituts. Parce que dans le rapport parent, on appelait ça ce niveau-là. On voulait créer des instituts dans chacune des régions. Et j'étais membre de ce comité-là dans la dernière année avant les élections. Donc, j'étais sensibilisé à cette chose-là. Alors, plutôt que des... Je n'aime pas le mot institut.
Vous vouliez revenir à une forme plus connue ici. C'était oui, le mot collège.
Oui, c'est ça. Le mot institut, là, les instituts de danse, instituts de la viande. Je ne voyais réellement pas pourquoi qu'on se lançait avec un mot semblable. Et j'ai développé avec M. Johnson, je suis allé le voir. Je dis, écoutez, M. Johnson, on a là une chance en or. Moi, j'ai l'impression que tous les gens au Québec ont voulu envoyer leurs enfants au collège. Parce que dans toutes les régions, il y avait des collèges privés, dirigés par, en général, les communautés religieuses ou le diocèse. Et tout le monde voulait envoyer ses enfants, mais ils réussissaient souvent à un, deux, parce qu'ils n'étaient pas assez riches pour le faire. Alors, puisqu'on va ouvrir ça, et on va démocratiser l'affaire, donnons donc la chance aux gens de dire « Enfin, on peut envoyer nos enfants au collège. » Alors, on appelle ça des collèges. Très bien. On est parti avec, on forme des collèges. Le ministère a accepté le mot collège. Et là, entre-temps, moi, je suis parti ailleurs dans un autre ministère. Et volontairement ou involontairement, je ne sais pas, on a changé dans la loi, on a appelé ça des collèges. Puis là, on a donné tout le mot des collèges
d'enseignement général et professionnel.
Je veux dire, on a défini ce qu'était le collège. Et puis, avec l'habitude des sigles de l'époque, on a appelé ça des cégeps. Donc, au fond, j'ai raté mon opération, disons, psychologique de permettre aux Québécois d'envoyer leurs enfants au collège. Ils se sont ramassés dans les cégeps. Ils se demandent encore aujourd'hui, c'est quoi ça au fond des cégeps? On n'a jamais réussi à, disons, à inscrire dans le portrait de façon définitive la réalité de ce niveau d'enseignement par rapport aux familles et aux Québécois. Mais quand même, le système est organisé et il est en place depuis.
Je vous remercie beaucoup. On a pris beaucoup de temps pour l'Union nationale, mais c'était fort intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Mars.
Ça a été un plaisir.
Vous venez d'entendre la deuxième d'une série de 7 émissions consacrées à Marcel Mars, décédé le 25 août dernier à Sainte-Agathe-des-Monts. Nous diffuserons d'autres extraits de ce témoignage la semaine prochaine. Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain même heure, soit 18h, sur les ondes de Radio-VM à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.